Donc voilà, donc je voulais réécrire là-dessus pour justement dire l'horreur de la guerre, l'horreur que c'était. Parce qu'en effet, je sais qu'il y a Nicolas Offenstadt qui vient souvent ici, c'est important que des générations comme la mienne qui n'ont pas connu la guerre, qui ne savent pas ce que c'est que d'un coup tout plaquer, partir pour tuer des mecs qui ont notre âge et qui sont soi-disant nos ennemis, c'est des choses qui sont absolument incompréhensibles. Hein, d'accord. Mais justement, c'est à nous de cultiver et d'entretenir ce souvenir pour savoir d'où on vient. Donc du coup, j'ai écrit là-dessus. C'est comme la mort de Jean Moulin. Jean Moulin, il est mort, assassiné, torturé par les Allemands. Point. C'est ce que vous voyez partout. Ce qui m'a intéressé, ça a été de me dire, mais alors finalement, comment il est mort? Et de découvrir que la Gestapo, les nazis, avaient protocolisé la torture. La chaise, on tabasse, on commence à casser les extrémités, la baignoire, la pendaison par les pieds, un petit peu d'électricité, on retabasse. Et quand il y a eu l'arrestation à Caluire, ils cherchaient, la Gestapo, les Français, cherchaient le chef de la résistance en France. C'était capital. C'est Barbie qui l'a gardé à Lyon et qui s'est bien gardé de le dire aux nazis et aux Allemands. Parce qu'il fallait, il voulait absolument lui savoir. Donc il les a tous massacrés. Quand j'ai écrit ça, quelle prétention de ma part. Et puis qu'est-ce que j'aurais fait en 40, moi? J'en sais rien. J'avais, comme on peut dire, j'ai la prétention de dire que j'étais un copain de Raymond et Lucie Aubrac. Et donc j'ai appelé Raymond et je lui ai dit, est-ce que je peux venir vous lire? J'ai fait un texte, etc. Donc mon texte, parce que Raymond est le dernier à avoir vu Jean Moulin descendre, le visage bandé. C'est la dernière fois qu'il l'a vu. Il était dans un cachot à la prison de Montluc à Lyon. Et il l'a vu descendre. Donc ça m'intéressait de lui lire mon texte. Donc c'est le seul texte du livre qui a été publié en l'état dans Charlie Hebdo. Et quand Raymond Aubrac est décédé l'année dernière, ça me paraissait comme une évidence de ne pas changer un mot, puisqu'il m'avait validé mon texte en quelque sorte. Et la torture de Jean Moulin, c'est la France d'extrême droite qui torture la France démocratique, pour pas dire de gauche, mais de gauche et démocratique, parce qu'il y a des gens de droite qui sont démocratiques et qui sont quand même très tolérants, mais c'est l'extrême droite qui tue et qui essaye d'avoir la France. Et ça a été un truc à écrire qui a été assez lourd, parce que quand vous avez le témoignage de gens qui y étaient et qui vous racontent comment c'était, vous vous dites, c'est lourd. Et on n'est pas n'importe quoi. C'est un livre politique, parce que justement, quand on voit qu'on veut réduire la France à l'heure actuelle à simplement des agences de notation, c'est abject, parce que quand vous voyez d'où on vient, quand vous voyez ce qu'on a fait, quand vous allez, l'autre jour j'étais au Conservatoire des Arts et Métiers, et que vous voyez ce qu'on fait des sculpteurs selon les salles, vous avez les salles de l'industrie, la salle de l'industrie textile, l'invention de la machine à vapeur, etc. Vous avez tout ça, vous déclinez tout ça et vous vous dites, mais c'est un pays magnifique. Et c'est pour ça que sur les agonies, j'ai voulu après investir le champ de la culture. Parce que c'est un petit peu facile de se balader et de dire, bon ben voilà, oui, il y a Voltaire, la place Voltaire, il y a l'avenue Balzac, l'avenue Victor Hugo, etc. Et puis, pas savoir comment ces personnalités, qui étaient très importantes à l'époque, on les a laissées crever. Celle qui marque à chaque fois, c'est Voltaire. Parce que Voltaire, c'était les Rolling Stones de l'époque, quoi. C'était un peu Mick Jagger qui vient à Merlieu, quoi. C'était un truc. Dès qu'il arrivait dans une cour européenne, il était adulé. Il va pas bien parce qu'en fait, il a une septicémie, probablement avec un point d'entrée urinaire. C'est raconté par des témoins, ça correspond. Ils le font venir de Ferney, où il était, et ils le remettent à Paris. Et là, vous avez, comme à chaque fois, ces putains de familles, sa nièce qui, d'un coup, dit « je vais pouvoir me faire des thunes ». Donc, elle le met dans une grange, derrière une maison qui est juste de l'autre côté du Louvre, sur le du Pont Royal, de l'autre côté, et elle fait payer pour aller le voir. Le roi n'en a rien à foutre, parce que la religion est là. Ce livre est politique parce qu'il souligne l'importance de la loi 1905. Il souligne l'importance de la laïcité. Et vous voyez vraiment le développement de ça, parce que Voltaire, les religieux ne veulent pas qu'on y aille. Ils ne veulent pas. Le roi essaye d'envoyer un docteur nul. Je ne me moque pas de la médecine. Je pense que dans 100 ans, on va se moquer de ce que je fais, moi. Mais la médecine, ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Donc, Voltaire est en train de crever. Et c'est le summum avec un médecin qui vient et qui lui dit « Bon, monsieur Voltaire, il faut mourir maintenant. Hein, il y en a marre. » Et il est veillé par deux ivrognes avec des chandeliers et il crève comme ça. Et il s'appelle Crevé. Et après, grand combat, ce qui m'a intéressé, ce que beaucoup ignoraient, même moi, c'est qu'ils ont une vie après la mort, ces personnalités. Parce que d'un coup, Voltaire est enterré dans une tombe, dans un petit monastère, comme ça. Bon, on le laisse, hop, on met V 1763, la date de sa mort, et puis V comme Voltaire, et on le laisse là. Il faut attendre la Révolution. Les révolutionnaires disent, on va chercher Voltaire. Donc, ils vont chercher Voltaire. Ils déterrent Voltaire. Bon. Et ils promènent Voltaire. Le cadavre, hein. Ils l'embobinent, ils le mettent sur un truc, puis ils le ramènent à Paris. Voltaire, le cadavre. Là, ils s'aperçoivent qu'il manque déjà une cheville. Parce qu'à l'époque, c'est très compliqué, les gens adorent garder des morceaux. Donc, surtout les médecins. Quand ils peuvent dépecer quelqu'un de connu, tac, ils gardent un machin, bah tiens, je vais garder le cœur. Alors, vous en avez qu'on fait des pendentifs avec des morceaux de cerveau, des cœurs. Vous avez le chirurgien qui était sur le bateau avec Nelson, il a gardé la balle qui a tué Nelson, donc il se baladait avec la balle de Nelson autour du cou. Ils adoraient piquer des morceaux comme ça. Donc ils sortent Voltaire du, là il manque déjà la cheville, ils le ramènent. Et à l'époque, les révolutionnaires disent il y en a marre des églises, il faut impérativement qu'on ait un panthéon sur le modèle de ce que faisait l'Angleterre. Et donc, ils font une annexe du Panthéon, qui était une église, en disant, c'est là qu'on va les mettre. Donc, ils vont chercher les mecs qui les avaient marqués, quoi. Donc, le premier, c'était Voltaire, le siècle des Lumières. Voltaire, on le fait revenir. Bon. Là, ils le mettent dans le cercueil. Ils mettent Rousseau dedans. Et en fait, il n'y a rien, a priori, dans les cercueils. Parce que en 1800 et quelques, au milieu du 19e siècle, il y a des intégristes cathos, encore eux. Qui sont pas contents qu'on ait mis Voltaire dans une ancienne église et qui seraient allés tout vider et qui auraient écrasé Voltaire et Rousseau du côté de Bercy. Voilà. Alors, ça a été expertisé parce qu'ils ont renvoyé des députés pour aller voir les tombes au Panthéon et ça a fait un scandale. A priori, c'est vrai, les mecs, ils ont dit, ben non, les trucs sont vides. Donc, ça a fait un tel scandale qu'ils ont dit, non, on va revérifier. Et alors, il y a un député véreux de droite qui est allé et... il a dit, mais il y a quelque chose. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est assez intéressant de comprendre ça, c'est que la mort est un truc qui porte. C'est pour ça que les révolutionnaires... là, il n'y a plus de place, mais...
Si on remet des bancs, parce que normalement, là, sinon, elle marche derrière.
Mais sinon, on peut remettre un banc là. Hein. Regardez, entrez le banc là. On va mettre un banc sur les genoux des gens. Regardez, on peut remettre un banc là. Ça, si vous allez avoir froid. Et donc, ce tabou sur la mort, c'est ce que vous retrouvez en 1789, enfin en 1792, lorsque les révolutionnaires disent les rois n'étaient pas dieux. D'ailleurs, on va aller sortir les cadavres. De la cathédrale Saint-Denis où ils étaient tous. C'est ce qui a donné à des exactions. Ils ont sorti les cadavres. C'est de là où la tête d'Henri IV est partie. On vient de la retrouver, comme quoi on ne perd rien finalement. Mais par contre, ça a dégagé ce qu'on appelle un ossuaire qui est là-bas. Et la seule reine, donc le seul cadavre de la Révolution qui a été authentifié, c'est le cadavre, enfin sans la tête, de Marie-Antoinette, parce qu'il y avait en fait la robe. Il y avait la robe autour. Et par la suite, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce tabou et de voir comment on a considéré le cadavre après était assez intéressant. Molière n'est pas mort sur scène. Molière, il a fait une tuberculose, il a rompu un vaisseau, il a commencé à cracher du sang sur scène, mais évidemment, les gens de théâtre, ça leur donne un alibi. Voilà, c'est pratique. Si je meurs sur scène, j'en ai rien à foutre, je suis comme Molière. Voilà, prétentieux. Et non, il est mort chez lui. Il a fait un malaise sur scène, il a été transporté chez lui. Chez lui, c'est là où vous avez la statue de Molière qui est juste derrière le Louvre. Et là, pareil, Molière, gros conflit avec la religion, qui ne veut pas entendre parler de son inhumation dans la terre et tout. Ils disent faut la fosse commune, on n'a rien à foutre et tout. Gros combat, ses amis, alors, une grande manif de l'époque, c'était 200 personnes, hein, c'était déjà énorme. Donc les 200 arrivent. Mais mettez-vous là, vous allez avoir plus chaud. Mais non, vous êtes toute seule dehors. Regardez, mettez-vous là. Mais regardez, que des amis. Et donc Molière, il meurt. Là, ils l'emmènent, ils le mettent en terre. Ils mettent une dalle dessus. Ils ont froid. Ils mettent des fagots de bois sur le machin. Ils font brûler. C'est un peu l'hiver. Il fait très froid. La dalle se pète. Ils s'en vont. Ils n'avaient pas le même regard sur la mort que nous. Ils ont dit bon, il est mort, il est mort. Ils voyaient tout le monde. La composante au cadavre. Ils voyaient des cadavres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. Et en fait, Molière a été enterré dans le même cimetière que Jean de La Fontaine. Et probablement que les cadavres ont été mélangés. On ne sait plus qui est qui. Donc, il y a une espèce de tombe au Père Lachaise en disant c'est Molière. Ce n'est pas du tout évident. On ne sait pas qui on met dedans, en fait. C'est exactement comme les cendres de Jean Moulin avec Malraux qui fait son beau discours et tout. En fait, on ne sait pas trop qui on a mis là-dedans. Mais ce n'est pas grave. Molière, il est partout et c'est ça qui est bien. Ce qui est intéressant, là encore, pour parler juste un mot de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, c'est la création, c'est un type, c'est un poète, c'est un génie et tout. Et il a peur de la mort. Comme, voilà, il la trouille. Et donc, d'un coup, il se confie à un intégriste, un curé, qui d'un coup lui fait renier tous ses écrits. Il brûle des livres entiers, il brûle des pièces et il se lacère avec... des lames autour du ventre qui font un énorme abcès et c'est de ça qu'il meurt parce que le curé passait son temps à dire il faut que vous fassiez encore plus mal parce que Dieu comme ça il va vous protéger après la mort. Ah c'est vrai, bon d'accord, je me remets un couteau. Et c'est très malheureux, ils n'étaient pas protégés. C'est pour ça que quand il y a l'idéalisation qui est faite par des fictions et tout, la réalité de l'époque est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus difficile. Alors, je me suis intéressé aussi aux artistes récents. Je ne suis pas allé sur des gens récents, ça me faisait chier en fait. Les trucs récents, c'est... Et puis, toujours mine de rien, vous avez moins de documentation sur les morts récentes qui sont totalement parasitées par des rumeurs que dans des trucs de l'histoire. Ça ne m'a pas intéressé. Quel intérêt Claude François et son électrocution. Voilà, les Didi, putain, machin. Mais par contre, ce qui m'intéressait, par exemple, c'est Camille Claudel, Antonin Artaud. Pourquoi ces deux ? Camille Claudel, c'est un dépit amoureux. Tout le monde dit qu'elle était folle. Mais non, elle était amoureuse d'un mec, histoire, machin, la grande rupture. Mais à l'époque, l'aliénation, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'hôpital à côté, dont je ne me rappelle plus le nom déjà, mais Prémontré, voilà. Et il les enfermait. Elle a été enfermée parce qu'elle faisait chier le monde. Elle hurlait tout le temps son amour pour l'autre. Ça faisait jaser. Donc elle faisait chier. Donc hop, à l'asile. À l'asile au début du XXe siècle. Et elle y reste, alors que vous avez des écrits des psychiatres de l'époque, hein, ils sont quand même à la conquête un peu des théories psychanalytiques et psychiatriques. Bon, mais quand même, ils écrivent non, ben bon, elle n'est pas plus folle que la moyenne. Hein, bon. Puis de toute façon, si maintenant on enfermait, messieurs, toutes les femmes qui sont comme ça, alors là, il faut rouvrir des lits tout partout, hein, vous êtes d'accord, ça, pas un truc qui nous arrivera à nous, mais le dépit amoureux. Tu parles, et c'est pour ça que j'ai voulu parler d'Antonin Artaud. Antonin Artaud était fou, mais là, c'est le grand débat qu'il y a en psychiatrie, le génie et la folie, où ça commence, où ça commence. Je suis totalement fou d'être devant vous, ici, dans un bled paumé, à parler de mes morts. Vous voyez, vous prenez ça, vous dites ça, il y a un mec qui est venu à Merlieu parler des cadavres, et les gens riaient. Hop, psychiatrie tout de suite. Bon, voilà, le génie et la folie, c'est vraiment un débat qui est... Voilà. Quand vous prenez Antonin Artaud, il est totalement fou quand il décide comme ça de ramener une canne qu'il a retrouvée par terre et en disant « ça y est, c'est la canne de Saint-Patrick, je vais la rendre aux Irlandais ». Il débarque en Irlande, il n'a pas une thune, on dirait SDF maintenant. Il commence à brocarder des Irlandais en disant « regarde, c'est la canne de Saint-Patrick ». Le mec, qu'est-ce que ce barge ? Il le ramène, il est enfermé et tout. Et c'est tout un parcours épouvantable. Mais Camille Claudel, comme lui, ont connu, c'est pour ça que c'est un livre politique, le génocide qui a eu lieu en France entre 40-41 et 44, qui a été des décrets passés par l'Allemagne nazie et la France vichiste, qui a été dire on ne donne plus que 500 calories par jour aux malades psychiatriques. Il faut savoir que pour vivre, votre métabolisme a besoin de 1500. D'accord ? C'est pour ça que quelqu'un qui fait la grève de la faim, en gros, on sait que passer 50 jours, c'est irrémédiable, il perdra la vue, il va mourir, etc. Bon, Bobby Sands, les Irlandais, etc., ça a été ça, on sait. 60, en gros, vous tenez 60 jours. Bon. Donc, il faut 1500. À 500 calories, vous tuez quelqu'un à petit feu. C'est ce qui s'est produit, puisqu'on estime entre 60 000 et 100 000 malades psychiatriques sont morts dans les hôpitaux psychiatriques pendant la Seconde Guerre. Et Camille Claudel est morte de faim. Camille Claudel est morte de faim. Malgré les lettres qui ont été retrouvées de psychiatres, d'infirmières qui disaient « Mais Camille va bien, elle est gentille, elle était très gentille, elle continuait parfois à faire des espèces avec un peu de terre, mais rien n'a été gardé, des semblants de sculpture. » A été, et c'est Paul Claudel, quoi. Tout le monde en sens Paul Claudel, mais c'est Paul Claudel, voilà, il m'aime pas. Enfin, et puis quand il lui disait alors vous pouvez ramener votre sœur, il disait non, elle est bien là, quoi. Non, ça a été. Et Antonin Artaud, lui, il a subi les premières séries d'électrochocs. Hein. Attention, il était résistant, le mec. Et quand il est revenu à la Libération et qu'il est revenu, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il avait tellement souffert, voilà, il disait t'as mangé. Est-ce que tu as mangé ? Manger, c'est important. Voilà. Il était totalement fou, mais c'est intéressant de voir que quand même, quand on regarde le courage qu'il y avait à l'époque, je repense à ça par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque Charb a été interdit d'aller faire une dédicace dans une librairie sur le boulevard Saint-Germain parce qu'on a fait des dessins pour le mariage pour tous. Et donc, la librairie avait peur que des anti-mariages viennent protester. Donc, ils ont annulé la dédicace. On s'aperçoit qu'on a un courage qui est quand même au ras des talons, quoi. Alors, en ce moment, c'est quand même... Hein, Oscar Wilde, il ne pourrait pas publier ses pièces, à mon avis. Hein. Bon. Donc, de voir comment à ces époques-là, même sur le surréalisme, et en écrivant ça, évidemment, je pensais à Artaud, parce que je me disais, mais finalement, la mort est un surréalisme incroyable. Et lui-même, et même dans toute la culture qu'ils avaient eue et dans les rendez-vous qu'ils avaient, il y avait une certaine forme de génie. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, on pourrait l'avoir, tellement on est dans un conformisme incroyable, quoi. C'est un conformisme assez, assez démesuré. Après, je me suis passionné pour des grands personnages de l'histoire, ce qui allait de pair quand d'un coup j'ai ouvert la Seconde Guerre mondiale. Avec Jean Moulin, je me suis intéressé à Churchill, qui pour moi est vraiment à plus d'un titre, un exemple assez incroyable de l'absence de renoncement. C'est un homme qui ne renonce pas, qui a tous les éléments pour renoncer. Il appelle ça son black dog, donc c'est sa dépression. Le mec a 65 ans, c'est la guerre, Hitler est partout. Hitler va envahir l'Angleterre, tout est prêt pour. Et c'est un mec de 65 ans qui dit non, ça ne sera jamais la fin. C'est même pas le commencement du début de la fin, mais on va gagner. Quand vous voyez ce qu'on dit maintenant des plus de 50 ans concernant l'emploi, ben Dieu, vous dites, il y a un problème, tu vois, c'est quand même dramatique, quoi. C'est pour ça qu'à travers ce livre, une de mes idées, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je pense que l'une des plus grandes ségrégations qu'on ait actuellement, c'est l'âge. la conquête de la modernité sur l'égalité homme-femme, je pense que c'est acquis et qu'il faudra du temps, mais la machine est lancée, il va y avoir des progrès encore, mais l'âge, on est encore mais carrément en dessous, quoi. Quand vous regardez la fenêtre de tir qu'il y a, en gros, quand vous êtes jeune, vous êtes trop jeune jusqu'à 25 ans, vous êtes très très jeune, d'accord ? Vous n'êtes pas assez formé. Puis après, vous avez une fenêtre de tir pour trouver du travail jusqu'à 35-40, ça y est. Ça, vous êtes vieux. Alors, dès que vous arrivez sur le 50-60, oh, bon, il faut casser ça. Et c'est ce que j'ai voulu dire à travers ce livre et à travers la mort de Churchill, c'est que le mec sauve l'Europe, va dans un investissement politique considérable. C'est exactement comme Roosevelt. Je fais partie du collectif Roosevelt pour un renouveau de l'économie, qui est tenu par Pierre Larot-Turou, Cynthia Fleury. On est un certain nombre à porter des nouvelles en disant « mais fuck à l'économie, quoi. À l'économie telle qu'on nous la donne, quoi. » Moi, je suis un peu plus radical. Je suis pour qu'on envoie les commandos de la marine régler son compte aux agences de notation. Je pense qu'une bonne claque vaut mieux n'importe quel discours avec un économiste. Mais bon, c'est... Voilà, mais je pense qu'on manque de courage. C'est pour ça que Cynthia Fleury a écrit un merveilleux ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle « La fin du courage ». Et quand vous regardez ce que fait Churchill, c'est la notion même du courage. Sur les artistes, pour terminer sur ce livre, sur les artistes, j'ai voulu parler des artistes populaires, notamment Fréhel. Là encore, Fréhel, un Java bleu, vous imaginez le truc, voilà, mais le truc, c'est populaire. C'est un truc fort, c'est un truc fort. C'est l'artiste. Elle finit totalement imbibée par la cocaïne et l'alcool. Rue Blanche, c'est une épave. On ne l'aide pas. Reste crevée. Voilà. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que l'importance de la protection sociale des intermittents du spectacle. C'est ça que vous lisez entre les lignes. Parce qu'un pays qui ne développe plus sa culture et qui ne protège pas les artistes, ok, il y en a des tocards. Ok. Benjamin Biolay. Enfin bon, c'est autre chose. Mais, ok, c'est chiant dans certains cas. Je l'accorde. Mais c'est pas grave, il y en a qui aiment. Voilà. Mais Fréhel, c'est quand même un truc et une culture incroyable. Elle est totalement déchéante. Elle était tombée amoureuse de Maurice Chevalier. Elle avait des goûts de chiottes. Mais elle l'aimait. Très drôle. Elle disait, elle était tellement alcoolique, elle disait, t'es beau comme un litre. Je trouve ça génial. C'est la poésie de l'alcoolique. Voilà, ça, c'est pas de l'amour. Mon bouchon, enfin, tu vois. C'est... Le summum de l'alcoolique. Bon, c'était beau. Bon. Et voilà. Et la pauvre vieille, elle est habillée en. Elle se déguise. Des fois, il y a des mecs. Elle arrive, elle dit, ah, bah, c'est Fréhel. Bah, tu vas bien nous chanter la Java bleue, du gris. Elle chante, il lui file des pièces, elle va picoler et tout. Et la mafia de l'époque, qui est la mafia corse qui tient Pigalle, Clichy, la rue Blanche et tout, envoie des mecs. Voir Maurice Chevalier en disant t'es gentil, toi t'as des thunes, elle en a plus, tu vas lui donner. Alors l'autre il fait bah non, alors la petite claque, comme quoi ça règle tout, la petite claque, et hop, c'est lui qui payait pour lui avoir un logement et tout. Et la pauvre vieille, elle est morte comme ça. Et c'est pour ça que je me suis intéressé, pour terminer là-dessus, à Laurel et Hardy. J'ai souffert de mes parents qui étaient assez casse-couilles, enfin peu importe, et qui ont passé mon enfance, parce que j'adorais, on avait encore un, vous savez, les jeunes, ils vont dire on est totalement vieillards, mais on avait on passait des films, voilà, c'était un truc avec le Super 8, ça passait, ça descendait, ça faisait un bruit de clac, 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 c'était merveilleux. Et on avait, on devait avoir 3 films de Laurel et Hardy que j'ai usé de tous les côtés. Et quand le film pétait, vous vous souvenez de cette époque, ça fallait coller. Et moi, je veillais à ce qu'on n'enlève rien. Donc, j'étais d'une rigueur sur le collage. Et mes parents passaient leur temps à me dire, mais c'était dans la rumeur. Hein. Laurel et Hardy sont morts alcooliques, pauvres, machin, désœuvrés, ils ne s'aimaient pas. Déjà, à l'époque, ils étaient pédés, la summum de l'insulte, ah, il était machin. Et c'est totalement faux. Ce sont... Je pèse mes mots. Alors, je l'ai dit dans plusieurs interviews et personne ne m'a corrigé. Je pense que ce sont deux philosophes des temps modernes, ces deux mecs. Quand vous regardez la modernité OK, il y a Buster Keaton, d'accord. Chaplin, mais Chaplin, c'est quand même... Tu sens que le mec... Bon, c'était la star. OK, c'était la star, c'est génial. Chaplin, c'est génial. Mais il manque... Il y a un truc... Quand vous regardez Laurel et Hardy, il y a un truc en plus, quoi. Vous sentez les deux mecs qui créent, qui inventent de l'humour, qui inventent des signaux, qui se moquent de choses que d'ailleurs Chaplin ne faisait pas, notamment l'ivresse, la moquerie vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des femmes, parce que Chaplin était toujours en avant. En gros, c'est Limelight, la pauvre désœuvrée, moi je suis pauvre mais je la sauve, etc. C'était ça. Eux, c'était autre chose. Et ces mecs s'aimaient d'une grande amitié. J'ai découvert un univers extraordinaire. Ils ne sont pas morts pauvres. Bon, évidemment, ils n'ont pas touché tous les droits d'auteur qu'ils auraient actuellement. Évidemment. Mais ils ne sont pas morts pauvres. Ils ont fait des tournées triomphales en Europe quand il y a eu le passage du noir et blanc au son et à la couleur. Ça les a dépassés. Leur dernier film a été tourné à Marseille. D'accord ? À Marseille. C'est là où Oliver Hardy, donc le gros... fait son infarctus, il est rapatrié aux États-Unis, ils essayent de le soigner, ça durera peu de temps, ils le font à mon avis beaucoup trop maigrir, et il fera une série d'accidents vasculaires cérébraux et sera dans le coma, et Stan Laurel restera à côté de lui. Non, il n'était pas du tout homo, ils aimaient les femmes. Stan Laurel, c'est facile, il s'est marié une fois avec la première, deux fois avec la deuxième, trois fois avec la troisième, quatre fois avec la quatrième. Génial. Génial, le mariage pour toutes. Tu vois, c'est génial. Et ils étaient potes de chez potes. Et ils écrivaient tout. Oliver Hardy meurt. Stan Laurel n'est pas malheureux. Il vit avec sa femme. Il rentre dans un hôtel. C'est Jerry Lewis qui paye l'hôtel, qui, pour être sûr qu'il vit bien dans son hôtel. Mais il a des thunes. Et il continue à recevoir des admirateurs. Et ça dure encore 4 ans. Mais il refuse de tourner parce qu'il dit « Mais non... » Il est mort et moi, je vais mourir. Et la réputation d'alcoolique, c'était de bons vivants, de très, très bons vivants comme nous. Mais ils n'étaient pas noyés dans l'alcool. Alors, d'où vient la légende ? C'est parce que, évidemment, à l'époque, quand ils ont fait leur tournée triomphale à Paris, ils ont logé dans un hôtel et les viticulteurs ont livré des hectolitres de bouteilles, quoi. Et ils ne voulaient pas jeter. Donc, si tu veux... Et donc, il y avait des bouteilles partout. Et ça les faisait poêler. C'est-à-dire, c'est des mecs, c'est pour ça que je vous dis que c'est philosophique, c'est des mecs, il fallait toujours se marrer. Et quand vous les voyez, tout est sans arrêt. C'est le monde du spectacle. Mais même dans leur vie, c'était coûte que coûte se marrer. Donc voilà pourquoi ce livre est éminemment politique. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Oui, moi, j'en ai une, parce que bon, y a une personne dont tu as raconté l'agonie, qu'on connaît bien à Merlieu, puisque moi, elle nous a rendu visite en 1921.
Botule, ouais. Alors, Botule n'existe pas, il faut déjà le dire, parce que je suis obligé de le dire s'il y a des journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui ont cru qu'il existait. Donc, il n'existe pas, ça a été une blague en fait avec
Tu nous Pagès. Dis ça, mais il y a une plaque ici.
Bien sûr qu'il y a une plaque, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, le scandale est arrivé il y a un an et demi, quand Bernard-Henri Lévy a sorti un livre et il a cité Botule. On ne lui en veut pas parce qu'en fait, comme Botule a été inventé par un collectif de philosophes, dont Gérard Mordiga, Pagès, etc., bah, c'est pas con ce que dit Botule, quoi. Mais vous voyez, ça n'existe pas. Bon, mais voilà, ça n'existe pas, mais c'est drôle. Et donc, d'un coup, quand il y a eu ça, je m'étais marré, puis j'ai appelé Pagès, je lui dis, bah, dis donc, on sait de quoi il est mort, Botule. Il me dit non, bah, je lui dis, je vais te le dire. Donc, j'ai inventé l'agonie de Botule. Et ça n'a pas loupé, je ne dirai pas le nom par politesse, d'un journaliste qui, dans une interview, a dit, ah, bah, je ne savais pas l'agonie de Botule, c'est horrible. Et là, tu fais, waouh. Donc, c'est facile de lancer un espèce de gimmick comme ça. C'est très drôle.
Je remarque quand même que tu l'as fait particulièrement souffrir. Hein.
Ouais, mais c'était
même
drôle.
À la fin, il n'est même plus en entier.
Non, enfin, il n'est plus en entier. C'est la création du Dahu, en fait.
Voilà. Ouais, on ne va pas en dire plus, ils vont le découvrir.
Ouais, ça m'avait amusé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Très rapidement. Je suis désolé, on va repartir tôt parce que voilà, je suis un peu claqué et puis c'est un peu loin. Quoi, donc, qu'on rentre... Voilà.
Non, mais je ne sais pas par où ils sont passés. Mais on va leur expliquer, ils vont se rendre compte que le chemin de retour.
On a une copilote, ouais. Là, a priori. Ouais. On kidnappe quelqu'un de Merlieu pour nous ramener.
Voilà, donc ce sera beaucoup plus court. Donc voilà. Déjà, tu peux gagner 20 minutes. Bon, ce que je propose à ce moment-là, puisque bon, il est déjà à 19h, c'est qu'on continue. On fait une petite série de questions s'il y a des gens qui veulent poser des questions.
Sur l'hôpital, oui, bien sûr.
Et puis, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du service public. Parce que bon. Depuis qu'on nous a transformé nos services d'éducation et services de santé en entreprise, je pense qu'il y a quand même du boulot à faire. On est loin du Conseil national de la résistance. Alors, peut-être que tu pourrais nous dire quelques mots sur ça.
Bah, on en est très loin et je fais partie de ceux qui ont voté Hollande et qui sont qui attendent, déçus, oui, mais... De toute façon, il suffit que je vois une manifestation comme pour le mariage contre le mariage pour tous pour me remettre et me dire, bon... Faut qu'ils bougent et c'est bien d'avoir comme ça déjà des élus de gauche. Mais bon, moi je rêve du gouvernement d'union de gauche large. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Parler de la santé à l'heure actuelle, c'est parler d'une volonté de l'Organisation mondiale du commerce qui a été de dire la santé est une marchandise comme une autre. Voilà, c'est ça. C'est le dogme du truc. C'est de voir que nous sommes des pions et que la première industrie qui est devant l'industrie, parce qu'avant, la première industrie, c'était l'industrie automobile, ça a reculé. La première, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc, en fait, elle est dans une concurrence de marché où il faut vous faire bouffer des médicaments coûte que coûte. Bon. Le Conseil national de la résistance avait inventé un truc qui était bien, c'était la roue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes malade, vous allez dépenser de l'argent... cet argent va servir à la roue, elle va revenir par les différentes taxes, etc. Elle sera reversée et vous voyez, c'est une roue. Bon. C'est très intelligent. Là où les politiques ont commencé à la casser, c'est à mon avis, c'est dans les premiers plans qui n'ont jamais marché sur la sécurité sociale, ça a été en 74. Hein. 74, Raymond Barre, machin, qui commence à dire oh là là, là là, là là, on dépense trop, faut se soigner moins, les malades sont méchants. Etc. Sans se dire qu'il faut encadrer le prix du médicament, parce que c'est la sécurité sociale qui paye les médicaments, qu'on n'a pas d'organisme de contrôle. C'est pour ça que l'affaire Mediator a éclaté. La plupart des médecins, et ce n'est pas les lois qui viennent de passer actuellement, qui va protéger de l'indépendance. On devrait avoir un organisme comme la Food and Drugs américaine, qui est vraiment avec des mecs qui sont sous serment, qui sont contrôlés, etc., etc., qui changent de poste régulièrement et qui, voilà, pour vérifier. Mais là, c'est pas le cas. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure à l'hôpital, le grand dogme, c'est Margaret Thatcher et Reagan, quoi. Et les lois de 2002. Et de 2007. D'ailleurs, il faut remarquer que là, il y a eu un rapport des sages, donc qui n'est pas un rapport politique, mais des sages de la Cour des comptes, qui disent les 10 dernières années, ça a creusé considérablement les déficits des hôpitaux. C'est-à-dire qu'on vous a menti, quoi. On nous a menti. Quand on a dit il faut fermer des lits, il faut rentabiliser, etc., ça a servi à rien. À rien. On a fait chier le monde. On vous a fait attendre des plombes aux urgences. Il n'y a plus d'ophtalmo dans certaines régions. Il n'y a plus de médecins généralistes. Ils ont tout pété. Et alors là, mais c'est toujours le même discours. Alors c'est là où ça va pas. Et ça va pas. Alors pourquoi ça va pas? Parce qu'on est dans la pensée unique. Dans la pensée unique, comme disait Margaret Thatcher, ce que je disais tout à l'heure, c'est le dogme de il n'y a pas d'alternative. Or, il y a des alternatives. Il y a plein d'alternatives. Il faut réinventer les centres de santé. Il faut réinventer des politiques publiques qui sont des politiques de santé publique absolument essentielles en luttant contre des grands systèmes. Bon, je pense qu'on a des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre considérables, mais qu'ils ne veulent pas parce que, justement, on reste sur l'élan Bachelot-Sarkozy, le fameux hôpital entreprise, qui a cassé, au-delà de tout économique et du chaos total que c'est sur l'économie, il a cassé une mentalité. C'est-à-dire que, moi, j'ai vu des médecins qui étaient très humanistes, qui codent, un tiers de leur temps, ils codent des dossiers pour faire... du chiffre et vous savez pas où ça va. Bon, on voit apparaître des boîtes d'audit, de l'évaluation permanente sur des systèmes. Tout est évalué. C'est la stratégie de l'évaluation. Stratégie de l'évaluation qui est maintenant dénoncée par des économistes, des sociologues nord-américains qui disent mais vous êtes totalement barge. Il ne faut pas faire ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On continue comme ça. Voilà. Et c'est n'importe quoi. Et on est sous la domination, je n'ai rien contre l'université, mais l'université médicale, les professeurs de médecine, il va falloir un jour régler des comptes, quoi, parce que les mecs sont richissimes, ont plein d'avantages que vous n'imaginez même pas. Ils ont obtenu, parce que c'est un lobby énorme, des tas d'avantages de la République, et surtout, ils n'entraînent rien en termes d'amélioration ou de compréhension du système. C'est eux-mêmes, lorsque il y a l'année dernière, il y a eu une proposition de dire, on va dire aux opticiens de pouvoir faire l'acuité visuelle parce que c'est important et que nous avons un peuple qui voit de moins en moins. Hein. Essayez de voir un ophtalmo dans votre coin, enfin, mais ne vous inquiétez pas, c'est la même chose à Paris. Hein. Il n'y a plus d'ophtalmo, ou alors il vous demande un bras pour les voir. Enfin, vous ne voyez plus votre bras, donc vous n'avez même plus le chèque que vous lui faites. Mais voilà. Deuxièmement, vous avez un peuple qui a des dents, ce n'est pas facile de voir un dentiste. Et ça coûte des fortunes. Donc vous avez des gens qui, pour se refaire faire les dents, partent à l'étranger. Et nous, on les voit au niveau du SAMU, parce que des fois, vous avez des accidents d'anesthésie, ou alors ils reviennent avec des infections parce que ce n'était pas propre. Donc, surtout, le tourisme médical est épouvantable, mais vous avez des gens qui savent. Et puis, les oreilles. Nous avons une population qui va être sourde. Et actuellement, des personnes de plus de 70 ans, plus de 75 ans, n'ont pas eu les traumatismes auditifs d'un jeune de 20 ans, qui est en boîte de nuit, etc. Alors, ils ont mis des trucs pour dire on limite à 90 décibels, mais vous savez comme moi que les trucs ne sont pas faits, donc ça pose vraiment des problèmes. Ça va poser des problèmes de surdité. Vous apercevez que ce sont les trois sens. C'est la bouche, le sourire, vous savez combien c'est important dans notre société. C'est l'oreille, c'est la vue. Vous avez donc un peuple qui voit moins, qu'entend moins, et qui a la relation sociale de plus en plus délicate. Donc, c'est un programme de santé publique fort. Or, on ne l'a pas. Et on reste à l'heure actuelle sur le dogme de Roselyne Bachelot, de l'hôpital entreprise, de la culture de l'autre et l'ennemi, d'accord. Vous avez bien vu comment on vous culpabilise sur les arrêts de travail, vous êtes salaud, machin. Mais par exemple, lorsque vous dites, et moi ce que j'ai dit à Touraine, mais bon, elle comprend rien, la pauvre, elle est dépassée par le truc. Je lui ai dit, il faut faire un lien entre la médecine du travail et la médecine. Il faut savoir que la médecine du travail dépend du ministère du travail, ne dépend pas du ministère de la santé. C'est n'importe quoi. Il faut développer l'inspection du travail, il faut encadrer, on peut faire de la prévention sur le lumbago, le premier motif de consultation en France, c'est l'entorse de cheville. Donc, vous voyez, on peut déjà s'amuser à regarder nos chaussures, est-ce qu'elles sont bien? Non, là, oui, non, oui, enfin, ça, c'est pas mal. Bon, on peut faire des choses qui, finalement, feront faire des économies, peut-être, mais surtout un mieux-être. Et l'être, et on est sorti de l'être, en fait. Alors, on est sorti de l'être en tant que personne, on s'est sorti surtout du verbe être, pour soi-disant avoir le verbe avoir. Mais ils nous ont fait croire qu'on allait faire des économies, qu'on allait avoir des bénéfices, et ça a été totalement débile, parce qu'on n'en a pas. Et quand vous regardez le bilan des années Chirac, de son hôpital entreprise, et de la loi Bachelot-Sarkozy, mais c'est un séisme total. Et ça continue, vous avez bien raison.
Elle n'a pas été abrogée, la loi. Ouais.
Elle n'est pas abrogée, ils ne veulent pas l'abroger. Ils ont fait, c'est ce que j'ai écrit dans l'édito de Charlie de cette semaine, c'est qu'elle n'est pas abrogée et ils ont fait croire pendant, pour gagner du temps au syndicat, on a fait 6 mois de parlotte avec le fameux rapport Couty. Mais vous imaginez, il y a une convergence entre les syndicats majoritaires, CGT, FO, CFDT et la Fédération hospitalière de France qui regroupe les directeurs sur certains points, quoi, en disant, en gros, il faut le dialogue social, il faut qu'il y ait une démocratie participative dans les hôpitaux, il faut réinclure les élus dans le machin. Tout ça, tout le monde a dit, ouais, mais ouais, c'est vrai, on a fait une connerie, cette loi est mauvaise. En lisant le rapport Couty, on se dit, il faut abroger la loi Bachelot. Alors, ils font, ah, mais moi, on peut pas. Souvenez-vous de 2002, Chirac arrive au mois de mai 2002, élu d'une manière dictatoriale, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que de foutre le Front National au deuxième tour, ce qui nous pend au nez dans quelques années. Enfin bon, peu importe, on va y arriver. Il leur faut 3 mois, juin, juillet, août, pour abroger les lois sur la RTT et les lois qui ont été faites sur l'hôpital. 3 mois. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils ne sont pas tous sortis. Et... Exactement. Mais il est con. Il est... Pardon. Mais il est très, très con. Mais bien sûr, parce que tu as bien fait. Mais si tu veux, le truc, le Conseil de l'Ordre, d'accord, quand Bachelot et Sarkozy ont ressorti le Conseil de l'Ordre, mais c'est vraiment l'état d'esprit de Vichy. Je suis dans une profession qui est surencadrée, qui est encadrée par les lobbies, énorme. À l'intérieur des lobbies, tu as des sous-lobbies avec les spécialités. Tu vois ? Alors, c'est pour reprendre dans mon bouquin. Tu aperçois que depuis Charles IX, les chirurgiens ne doivent pas parler aux médecins. Et ça, c'est comme ça. C'est totalement délirant. Bon. Et tu t'aperçois qu'à travers ça, le Conseil de l'Ordre a essayé de tout verrouiller. Le Conseil de l'Ordre qui est mal né. Il est mal né. Il est né en 40. Et ils n'y peuvent rien. À chaque fois, ils te sortent des bouquins pour te démontrer. Mais non, c'était pas en 40, c'était en 45. C'était différent, c'est pas la même chose. Si, puisque le président du Conseil de l'Ordre qui a été nommé en 40, il a été renommé en 45. Voilà. Donc, c'est là où c'est marrant, c'est là où c'est drôle, c'est que des grands systèmes, c'est l'histoire de la Belgique qui, pendant un an, n'a pas eu de gouvernement.
Et ils s'en tirent mieux que nous.
Et tu s'en tires mieux que nous. Tu aperçois qu'il y a une espèce de truc. Il y a un moment, tu as l'impression que l'administration s'auto-génère sur l'administration. Prendre un autre système, le SAMU social. Xavier Emmanuelli a quitté le SAMU social. C'est lui qui l'a inventé. Il l'a inventé pour une chose. Au départ, j'ai été très critique. On s'était engueulé. Je lui avais dit non, c'est de l'assistanat, de la charité. Et en fait, on ne s'était pas compris. Il m'avait dit mais non, pas du tout. Justement, moi, je veux conquérir une avancée sociale, c'est-à-dire de dire personne n'est dans la merde. On personnalise complètement l'aide de manière à l'émanciper, à le rendre plus libre. Parce qu'un SDF n'est pas libre. Il est dépendant de tout. C'est une prison sans barreaux, atroce. Bon. Il a lancé le truc. Progressivement, tu as une technostructure qui est arrivée, qui a commencé à prendre le truc, qui a commencé à parler de rentabilité. Hein ? Et actuellement, le SAMU social s'auto-entretient sur la structuration de l'aide sociale. Il s'auto-entretient. Il s'auto-détruit. Et quand tu leur dis, mais comme ce matin, j'étais à une réunion à la préfecture où je me suis cartonné la représentante qui a l'impression de voir la nouvelle Roselyne Bachelot, quoi. Tu vois, et d'un coup, elle te dit, tout va bien, les gens sont hébergés. À la limite, c'est super génial d'être SDF, quoi. Tu vois, on distribue du café dans les cartons, on aime les pauvres, on leur fait des bisous, c'est le monde des bisous. Et on fait des bisous, et on fait des bisous. Bon. Et quand tu leur dis, mais ça sert à rien votre truc, ça coûte les yeux de la tête, puisque en fait, c'est eux qui payent même des marchands de sommeil, qui sont la plus grande mafia pourrie à l'heure actuelle. Bon, bah, tu leur dis, ça sert à rien, quoi. Et où est-ce que vont les gens ? Dans le service public. Donc moi, ce que je passe mon temps à dire, c'est mon rôle d'aider les plus démunis. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une partie de services hospitaliers qui refusent de prendre en charge de la grande pauvreté. Bon. Parce que c'est chiant, un grand pauvre. Il est alcoolique, il est désespéré, il est handicapé, il parle mal et tout. Mais voilà, mais ça vaut le coup, ça demande un investissement considérable. Mais mettons le paquet pour mettre un investissement considérable. La Marisol Touraine nous dit, vous avez problème pour trouver des lits dans les hôpitaux. Elle va nous chercher des bed managers, des managers de lits, des grooms. Et attends, parce que c'est super bien ce qu'elle fait. Elle sort 150 postes. Nous avons 2500 établissements, 150 postes. Tu ne sais pas. C'est des mecs qui vont chercher des lits aux heures ouvrables. Donc, tu leur dis un service d'urgence, c'est H24. Donc, déjà, ça veut dire que à peu près les deux tiers du temps, c'est encore à nous de chercher des lits. Et ce n'est pas ce qu'on leur demande.
On sera dans un service,
baladé, parce que, voilà, parce que nous, quand on choisit un lit, tu as un patient tuberculeux, on va le mettre en maladie infectieuse ou en pneumologie. Tu mets ton malade tuberculeux en pédiatrie, en service de chirurgie et qui va contaminer les gens à qui on vient de mettre une prothèse, là, t'es heureux. Et c'est une anecdote. Quand le politique est nul,
il est vraiment nul jusqu'au bout. Il y a la guerre contre la Libye. Bon, on bombarde la Libye, etc. D'un coup, le président de la République de l'époque, qu'on a oublié, dit « On va soigner les résistants de la Libye. Faites-les venir. » Donc, ils les font venir en France. On les met à l'hôpital Henri Mondor. Enfin, au départ, on les disperse. On met à l'hôpital Henri Mondor. Les mecs ont des plaies surinfectées, dégueulasses. On les met en orthopédie. Le truc, quand vous avez que ça, vous faites des écouvillonnages, vous regardez les bactéries, etc. Et là, alerte générale. Des bactéries qu'on n'a jamais vues, qui sont multirésistantes à tous les antibiotiques. Donc, ils les regroupent à l'hôpital Henri Mondor, d'accord, en attendant de les soigner et de très vite les renvoyer là-bas, parce qu'aucun antibiotique ne marche. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une guerre bactérienne, quoique. Ça veut dire que là, on vient de découvrir, mais encore Marisol Touraine, ça ne l'intéresse pas, la microécologie. La microécologie, c'est un truc qui intéresse pas les écolos, d'ailleurs, mais c'est un truc capital. C'est-à-dire qu'en fait, les antibiotiques, le 6 juin 1944, quand les Américains débarquent en France, ils débarquent avec les sulfamides. C'est l'arrivée de la pénicilline. C'est le point zéro du début de la modernité de la médecine en Europe. Ils débarquent. À l'heure actuelle, les sulfamides, donc vous imaginez, ces antibiotiques ont tué des bactéries qui étaient actives depuis la nuit des temps. Et on les abat. Il a fallu donc moins de 70 ans pour que les bactéries soient résistantes à ces antibiotiques. C'est totalement fou. C'est un truc, vous vous dites. Donc les bactéries qui sont bel et bien vivantes réussissent à se dire « Ah, c'est ambitieux, on va résister. » Bon. En fait, la stratégie de l'Afrique du Nord et de leurs structures de santé, qui sont à quelques heures de la France, c'est que les antibiotiques sont en vente au marché. C'est-à-dire que vous êtes un peu malade, vous allez au marché, vous dites, tiens, je prends du clamoxyl. Ah, 2 grammes de clamoxyl, ah, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas du tout encadré. Donc, du coup, les bactéries sont devenues multirésistantes. Et c'est pour ça, plus dramatique pour eux, que les antibiotiques concernant la lutte contre la tuberculose sont inefficaces dans la plupart des pays d'Afrique. Donc, bilan, vous me direz, c'est l'Afrique. Mais non, justement, c'est dramatique. Parce que, justement, ce qui se passe là va forcément arriver progressivement et va remonter en Occident. Et à l'heure actuelle, quand vous voyez qu'il n'y a pas de politique qui est vraiment faite et il y a des orientations à avoir, oui, c'est encore, on est sur la roue libre de la pensée unique, des agences régionales de santé qui appliquent la façon de penser. On continue à fermer, à fermer des structures, à leur demander 20 000 emplois, 150 millions d'euros d'économies sur les hôpitaux de Paris, etc., 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 etc. Et des économies, pourquoi faire ? Depuis le temps qu'on fait des économies, pourquoi faire ? Et surtout après, quand vous vous retournez et que vous apercevez qu'ils décident de reconstruire un hôpital neuf, là vous dites, mais d'où vous sortez ces millions ? Le fameux partenariat public-privé de l'hôpital de Corbeil, qui coûte en location 43 millions d'euros par an. C'est la première fois qu'un directeur d'hôpital a demandé sa pré-retraite, c'est du jamais vu, a demandé sa pré-retraite en disant, écoutez, là, c'est n'importe quoi. L'agence régionale d'Île-de-France ne voulait pas payer. C'est une intervention de l'Élysée de l'époque, du président qu'on a oublié, qui a fait qu'ils ont dit, vous payez. Et cet argent-là, ce n'est pas l'hôpital de Corbeil qui le paye. C'est l'ensemble des établissements d'Île-de-France qui le payent. Et c'est incroyable. Et en plus de ça, c'est que ces andouilles, ils ont signé un contrat. Dès qu'il faut faire un trou dans une porte ou refaire machin, faut demander et hop, et il faut qu'ils payent. Voilà.
Bon, voilà. Un peu de courage politique et on re-socialise tout ça.
Ah ben oui, mais il faut nationaliser ça. Mais là, il va y avoir un député socialiste, Jérôme Guedj, qui va déposer un amendement pour nationaliser ces partenariats publics-privés. Vous imaginez Louis XIV, qui se disent tiens, on va construire les Invalides, on va construire la Pitié-Salpêtrière, on va construire l'hôpital Thenon, et puis on va faire des baux amphithéotiques aux aristocrates de l'époque. On paierait encore. Mais ils construisent ça en disant c'est l'État qui construit. Le rapport de la Cour des comptes, pour parler de Corbeil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. Le rapport de la Cour des comptes, régionale des comptes, a dit que cet hôpital allait coûter 500 fois plus cher que si c'était l'État qui l'avait payé. 500 fois plus cher.
L'État, c'est nous. Il faut savoir qui paye.
Voilà. Bon. Avez-vous d'autres questions ?
Ce que je propose, c'est qu'on continue autour d'impôts et on remercie Patrick d'avoir accepté
mais
de
merci,
venir.
Mais merci, c'est moi. Je suis encore désolé l'autre fois, mais le mec s'est fait péter la tête. C'est encore un truc très intéressant. Voilà un fou qui aurait dû être pris en charge et pas laissé à lui-même. Donc, pour vous dire, j'étais censé venir. En fait, on devait partir à midi. Et en fait, à 11h30, il est rentré dans l'école. Il s'est tiré une balle de fusil à canoncier là-dedans, devant les enfants. Et c'était très intéressant parce que les enfants, on a réussi à... je suis resté 10 heures là-bas. Le lendemain, on y est retourné. Et les enfants étaient quand même très, très responsables, très courageux. Ce qui m'a le plus marqué, c'était le courage de ce qu'ils ont vu et comment ils l'ont appréhendé. Bien, voilà. Voilà, c'est tout pour le petit exemple. Bon, merci beaucoup.
Ouais, merci. Donc, c'est nous. Merci en tout cas. Hein. Ouais.